Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance, c'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux deux repas par jour par les Restos U à 1 euro.
La réponse d'Emmanuel Macron à la détresse des étudiants, repas à 1 euro pour tous, soutien psychologique et retour à l'université un jour par semaine. Pas si simple à mettre en place, nous dira notre spécialiste éducation. Pfizer va réduire ses livraisons de vaccins. En cause, la recommandation européenne de prélever dans chaque flacon 6 doses au lieu de 5 initialement. Un bonus dont le labo américain va nous priver. Faut-il reconfiner le pays face à la menace du variant anglais? Olivier Véran ne l'exclut pas, nous l'entendrons. L'Europe, elle, réfléchit à de nouvelles restrictions entre les pays membres. Les 27 s'interrogent sur la mise en place de contrôles aux frontières. Dans ce journal également, Joe Biden lance un plan massif pour lutter contre le Covid. Priorité numéro 1 du nouveau président américain. Nous irons à Washington. L'arrestation du Français le plus recherché par Europol, c'est une information Europe 1. Et puis, Monsieur Cuisine est-il menacé? Le Robostar de Lidl a été interdit à la vente en Espagne. La France pourrait suivre. La météo, prudence, la tempête Hortense est en approche. 3 départements sont ce soir en vigilance orange vent violent. Les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Demain, le temps sera très pluvieux, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,67% à 5 590 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. La France veut être dans le trio tête de la recherche quantique. 1,8 milliard d'euros d'investissement annoncé aujourd'hui. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Xavier Vasquez, le directeur mondial des centres technologiques d'IBM Systèmes. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron s'est donc rendu au chevet des étudiants. Le chef de l'État a échangé avec plusieurs d'entre eux cet après-midi à l'université Paris-Saclay. Et d'emblée, il a mis en garde. Les prochaines semaines seront encore difficiles. Il va donc falloir tenir. Pas simple pour des étudiants déjà fragilisés, privés d'amphi, de sorties et de jobs pour payer les loyers et se nourrir convenablement. Le gouvernement va donc les soutenir aussi bien financièrement que psychologiquement. Virginie Rival, président, a d'abord annoncé une aide alimentaire.
Oui, le président annonce 2 repas alimentaires par jour pour tous à 1 euro. En clair, tous les étudiants pourront aller chercher ces repas auprès des Crous. Auparavant, ça n'était accessible qu'aux étudiants boursiers. Là, ça va s'adresser aux non-boursiers comme aux étudiants internationaux qui, eux aussi, sont en grande difficulté. Et ça sera mis en place le plus vite possible, nous dit-on du côté du gouvernement, pour la fin du mois et même dès lundi éventuellement.
Virginie, les étudiants le disent, ils n'en peuvent plus de suivre leurs cours à distance, seuls devant un ordinateur. Message entendu par Emmanuel Macron qui souhaite un retour très progressif dans les facs.
Un étudiant qui soit en licence ou en master, il doit avoir à peu près les mêmes droits, il a les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille. Et s'il en a besoin, il doit pouvoir revenir une journée par semaine à l'université pour faire du présentiel, que ce soit en TD ou en cours. Et donc ce qu'on va construire, c'est une solution pour le deuxième semestre qui consistera à dire un étudiant ou une étudiante a le droit d'avoir 20% de son temps en présentiel. Et on doit essayer de tenir, c'est-à-dire 1 jour sur 5.
1 jour sur 5 à l'université, c'est le souhait du président, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, Virginie.
Oui, pas si simple, car Emmanuel Macron a certes parlé d'un jour en présentiel pour tous les étudiants, mais la règle, a-t-il ajouté, c'est que ça ne doit pas dépasser la jauge de 20% par rapport à la capacité d'accueil globale des facs. Là où ça se complique, c'est que dès lundi prochain, le but, c'est aussi d'accueillir 50% des étudiants de première année en présentiel pour leur TD. Autant vous dire qu'on n'aimerait pas être président d'université, car si vous m'avez bien suivi, et c'est un défi lancé aux règles mathématiques, il va falloir que 20% plus 50% fasse 20%.
Merci. Merci Virginie Riva. Écoutons tout de suite la réaction de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
Un jour en présentiel par semaine, c'est loin de suffire. C'est largement insuffisant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demandait, c'était une alternance, une semaine présentielle, une semaine distancielle pour avoir un vrai encadrement pédagogique. Si vous pouvez aller en cours qu'un seul jour par semaine, ça ne va pas permettre de raccrocher les wagons pour tous les étudiants qui sont en train de décrocher massivement.
La présidente de l'UNEF, le principal syndicat étudiant qui maintient son appel à la grève mardi prochain. Elle notait que le président de la République a également annoncé la création d'un chèque psy qui permettra aux étudiants de consulter gratuitement un thérapeute. Emmanuel Macron, qui, en marge de ce déplacement, a exprimé froidement sa colère. « Nous sommes devenus, dit-il, une nation de 66 millions de procureurs. » Le chef de l'État s'est agacé des critiques incessantes sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, dénonçant une traque incessante de l'erreur, à l'origine, selon lui, de la défiance française. C'est une décision qui ne va pas manquer de faire polémique. Pfizer va réduire le nombre de flacons de vaccins qu'il devait initialement livrer à la France. Et pour justifier cette décision étonnante, Victor Dolande, le laboratoire américain profite des recommandations de l'Agence européenne des médicaments.
Oui, cette agence a recommandé il y a 10 jours de ne pas gâcher, donc de prélever non plus 5 mais 6 doses dans chaque flacon. Conséquence, Pfizer a décidé de diminuer d'un sixième le nombre de flacons livrés. Lorsqu'il en fournissait jusqu'à présent 20 pour 100 doses, comprenez 5 doses par flacon, ce sera désormais 16,6 flacons qui seront envoyés, nous explique le ministère de la Santé. Sauf que dans les centres de vaccination, pour le moment, on continue à prélever le plus souvent que 5 doses, comme l'explique le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
On essaye de faire 6 doses, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire, mais on ne peut le faire que dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, c'est quand on a le bon matériel, et le bon matériel n'est pas toujours disponible. La DGS, en quelque sorte, n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'elle fournisse le bon matériel partout. La question, c'est quand ce matériel va-t-il arriver ? Parce que tant qu'il n'arrivera pas, on n'arrivera pas à faire 6 doses dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on va vacciner globalement moins de personnes.
Donc, si on comprend bien, Victor, il pourrait maintenant y avoir un problème de seringue ?
Oui, car pour prélever 6 doses dans les mêmes flacons, il faut des aiguilles spécifiques qui ne sont pas forcément disponibles pour le moment dans tous les centres de vaccination. Et comme beaucoup de pays vont commander le même matériel en même temps, la tension risque d'être forte. Le ministère de la Santé se veut rassurant. Les centres de vaccination qui n'en ont pas seront livrés, nous assure-t-on. Et donc il y a encore quelques jours, cette sixième dose qui était un bonus, une personne potentiellement en plus à vacciner. Avec la réduction des livraisons de flacons, ce bonus s'est transformé en contrainte.
Victor Dolande du service Société d'Europe 1. La pression hospitalière continue de s'intensifier. 2876 personnes sont ce soir en réanimation, 34 de plus qu'hier. Près de 23 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Chiffres inquiétants qui pourraient exploser si le très contagieux variant anglais venait à devenir dominant en France, comme le prédit l'INSERM. Alors faut-il reconfiner, comme le demandent de plus en plus d'épidémiologistes? Olivier Véran, en tout cas, ne l'exclut pas. Le ministre de la Santé était ce soir l'invité du 20h de TF1.
Aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si nous devions constater qu'il y aurait davantage de variants anglais et que nous étions sur une pente épidémique à l'anglaise, par exemple, ou si nous constations que malgré le couvre-feu à 18h, la pression sanitaire, la saturation des hôpitaux devait augmenter, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne.
C'est-à-dire ?
Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger. À chaque fois que nous avons confiné, c'était pour sauver des vies et protéger l'hôpital. Si nous étions dans cette situation, nous referions le confinement dont on le sait qu'il est efficace en France et ailleurs dans le monde. Le Conseil scientifique a été saisi, avait émis plusieurs hypothèses, parmi lesquelles un couvre-feu national à 18h. On souhaite lui donner sa chance de fonctionner. S'il devait être efficace sur le plan national, on éviterait un confinement et toutes les conséquences sociales, économiques qu'un confinement a sur les Français.
Olivier Véran qui a par ailleurs annoncé que 500 000 créneaux de vaccination seront ouverts à partir de mardi. Objectif, dit-il, que tous les Français soient vaccinés d'ici la fin août. En attendant, il faut contenir à tout prix la progression de ce très virulent variant anglais. Et c'est l'un des sujets que sont en train d'aborder les 27 dirigeants de l'UE, réunis ce soir par visioconférence pour évoquer la pandémie. Au menu de ces échanges, le passeport vaccinal, l'accès aux vaccins, mais aussi la très sensible question des restrictions aux frontières intra-européennes, Isabelle Horry.
Oui, c'est un sujet qui est en train de monter, hein, celui des mesures à mettre en place entre les pays européens. Alors, vous vous souvenez comme en mars, les frontières s'étaient fermées de façon désordonnée, chacun agissant dans son coin. Eh bien, cette fois, il y a la volonté de tenter de mieux se coordonner. La France, par exemple, dit depuis la semaine dernière qu'elle envisage des contrôles sanitaires pour les Européens qui entreraient sur son territoire. Mais elle voulait d'abord en parler avec les autres pays, sachant que certains États membres comme l'Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique exigent déjà un test PCR négatif et parfois impose une quarantaine. La Belgique voudrait même aller plus loin. Son Premier ministre veut interdire les voyages non essentiels. En clair, interdire aux Belges d'aller en France ou en Suisse pour les vacances de février et interdire le territoire belge aux voisins. Même Angela Merkel n'exclut plus la fermeture des frontières allemandes en dernier recours, dit la chancelière. C'est donc le sujet sur la table ce soir. Pas simple hein, pour les Européens d'avoir une approche commune. C'est une compétence nationale et la vitesse de propagation des nouveaux variants change la donne de 48 heures en 48 heures. Ce soir, l'agence européenne chargée des les épidémies appellent en tout cas les 27 à prendre des mesures encore plus strictes dans les semaines à venir.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Notez que le secrétaire d'État aux affaires européennes sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1. Clément Beaune répondra aux questions de Sonia Mabrouk à partir de 8h15. Et puis cette dernière minute, les épreuves de spécialité du bac qui étaient prévues en mars sont annulées au profit du contrôle continu. C'est ce qu'annonce ce soir le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
À peine installé, déjà au travail. Au lendemain de son investiture, Joe Biden a d'ores et déjà signé une dizaine de décrets, notamment sur le climat, l'immigration et surtout la gestion de l'épidémie, l'un des points noirs que lui a laissé en héritage Donald Trump. Avec plus de 400 000 décès, le nombre de morts du Covid aux États-Unis a dépassé celui des soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Statistique édifiante. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant sur place. Joe Biden a donc fait de la lutte contre la pandémie sa priorité numéro un.
Oui, le nouveau président veut incarner l'offensive de l'État fédéral dans ce combat contre le Covid-19. Hier, son premier décret instituait le port du masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux. Aujourd'hui, il va prendre une série de nouvelles directives pour accroître la capacité de tests, rendre plus équitable l'accès au dépistage, augmenter l'offre de vaccins et le nombre de sites de vaccination. La lutte contre la pandémie, elle obsède le président Biden, expliquait hier Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche.
Tous les jours, il se réveille avec comme priorité de maîtriser la pandémie et tous les soirs, il se couche avec comme priorité de maîtriser la pandémie.
L'équipe Biden affiche là ses différences avec l'administration Trump qui a toujours minimisé les conséquences de la maladie, alors que plus de 3000 personnes meurent chaque jour dans le pays. Autre symbole fort à venir, le docteur Anthony Fauci assistera ce soir au point presse de la Maison-Blanche. Depuis le mois d'avril, il y est apparu une fois seulement, comme un nouvel exemple de la part de l'administration Biden de remettre la science au cœur de la lutte contre la pandémie.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une information que nous vous révélions dès cet après-midi. Le Français le plus recherché par Europol a été arrêté hier soir en Espagne. Il s'agit de François Di Pasquali, qui était en cavale depuis 2016. L'homme avait été condamné en son absence à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une femme de 84 ans. Voilà pourquoi il faisait partie des 19 personnes Most Wanted, les plus recherchés par Europol, Gladys Laffitte.
Oui, exactement. Et à ce titre, les enquêteurs de la BNRF, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, ont effectué un travail de fourmi pour le retrouver. Ils n'ont pas lâché l'entourage de François Di Pasquali, un franco-italien de 48 ans, des proches français notamment, dans la confidence de sa cavale, puisqu'il prenait beaucoup de précautions pour ne pas attirer l'attention visiblement. Mais petit à petit, les policiers apprennent que sa compagne est espagnole, que cette piste est donc peut-être intéressante à suivre. Une piste confirmée par un indice récolté lors d'une vaste opération de perquisition menée en France hier. Tout a été passé au peigne fin, carte postale, téléphone, ordinateur, bref, la confirmation arrive vite. Un immeuble où pourrait se trouver le fugitif est identifié dans la banlieue de Barcelone. Quelques heures plus tard, la police espagnole s'y rend et arrête donc François Di Pasquali en possession d'un faux passeport italien. Fin de cavale donc pour cet homme recherché depuis plus de 4 ans. Il devrait être remis à la France dans les 40 prochains jours.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le Sénat a entamé aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel pour protéger les mineurs de moins de 13 ans. Le texte a été enrichi en dernière minute par des mesures spécifiques à la lutte contre l'inceste, conséquence directe de l'affaire Olivier Duhamel dont l'enquête se poursuit. Le frère jumeau de Camille Kouchner a été entendu aujourd'hui par la brigade de protection des mineurs. C'est lui qui aurait été agressé sexuellement à l'adolescence par le politologue. On a appris aujourd'hui le décès de l'actrice Nathalie Delon, qui avait notamment joué dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec son mari de l'époque, Alain Delon. Elle avait 79 ans. Et puis disparition également du dernier monstre sacré de la BD, le dessinateur Jean Graton, qui a donné vie à Michel Vaillant. 25 millions d'albums vendus dans le monde. Venons-en maintenant à cette tempête qui sévit au rayon appareils ménagers section robots de cuisine. Secteur qui ne connaît pas la crise et pour cause, il s'en nourrit. Les Français n'ayant jamais autant cuisiné avec les différents confinements. L'enseigne de grande distribution Lidl surfe à plein sur cet engouement grâce à son super robot, le Monsieur Cuisine, vendu à un prix défiant toute concurrence, 399 €. Problème, il ressemble un peu trop, voire beaucoup trop à l'autre star du marché, le Thermomix, qui l'a fait condamner en Espagne. Lidl a retiré ce produit des rayons. Et ce que vous nous révélez ce soir, Carole Ferry, c'est qu'une procédure est également en cours en France.
Exactement. En fait, c'est la maison mère de Thermomix en Allemagne qui a porté plainte dans plusieurs pays, dont la France, donc pour violation de la législation sur la protection des brevets. La justice espagnole a été la première à réagir. Elle accuse Lidl d'avoir beaucoup trop copié en effet Thermomix pour fabriquer son robot maison, en reprenant quasiment toutes les caractéristiques pourtant protégées par des brevets. Sauf que vous l'avez dit, le monsieur cuisine de Lidl est vendu 399 €. C'est 2 à 3 fois moins que le coût du Thermomix. Mais ce coût est justifié, selon Pierre-Yves Buisson, directeur général France de Forwerk, la maison mère de Thermomix.
On a un choix, si vous voulez, délibéré de proposer des produits qui sont innovants, qui sont durables, qui sont réparables. On les produit en France. Et pour ça, bien entendu, on investit des sommes importantes. On a un peu plus de 100 personnes qui travaillent en recherche et développement en Allemagne. On investit des millions d'euros, en fait, dans chaque produit qu'on lance sur le marché. Et on ne souhaite pas que d'autres marques se saisissent, en fait, de ces innovations sans avoir payé le prix de la recherche et développement qui va avec.
Alors, que dira la justice en France? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation sur les brevets n'est pas forcément la même suivant les pays. Donc rien ne permet pour le moment de savoir si oui ou non les Monsieur Cuisine de Lidl seront retirés de la vente en France.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. En sport, 3 informations à retenir. Les JO de Tokyo auront bien lieu cet été. Il n'y a pas de plan B, assure le président du comité international olympique. Noël Le Graët, candidat à un 4e mandat à la tête de la Fédération française de football. Il est âgé de 79 ans. Et puis le suspense reste total dans le Vendée Globe à moins d'une semaine de l'arrivée au Sable d'Olonne. Le leader Charlie Dalin devance d'un peu plus de 120 km Boris Herrmann, lui-même suivi de très très près par Louis Burton. On passe à la météo marquée ce soir par l'arrivée de la tempête Hortense. 3 départements sont en vigilance orange vent violent. Il s'agit des Landes, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. Demain, à Nissa Adadi, le temps sera encore une fois très pluvieux.
Oui, ça va concerner quasiment tout le monde. Demain, Julien, toutes les régions, du moins situées au sud d'une ligne, allant des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes. Là, il pleut. Le long de la façade atlantique, en Gironde, Poitou-Charente, Limousin, Landes et sur le Pays Basque, les pluies seront même plus soutenues et accompagnées dans le quart sud-est d'un fort coup de vent demain, toute la journée, avec des rafales à plus de 120-130 km/h sur les côtes et 100 km/h en Occitanie jusqu'au Languedoc-Roussillon. Donc ça va souffler très fort. Sur les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et la Corse, c'est le retour de la neige sur les reliefs avec des flocons à partir de 1300 mètres d'altitude. Demain matin, de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par la Normandie et la région parisienne, là c'est un ciel de traîne qui se met en place. Nous sommes à l'arrière de la perturbation et là le temps est sec, ensoleillé toute la journée. Dans l'après-midi, sur la façade atlantique, le soleil est de retour avec toujours beaucoup de vent sur les côtes et ailleurs, le temps reste très pluvieux. Les températures, 1 à 6 degrés sur la moitié nord demain matin, 5 à 10 sur la moitié sud. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 6 à 16 degrés sur l'ensemble du pays.
Merci beaucoup Anissa Adadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. La France veut être dans le trio de tête de la recherche quantique. 1,8 milliard d'euros d'investissement annoncé aujourd'hui. Quantique, Kezako. Eh bien, c'est la question que posera Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Xavier Vasquez, le directeur mondial des centres technologiques d'IBM Systèmes. A tout de suite sur Europe.
Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street souffle après ses records historiques de la veille.
Oui, moins 0,04%. Une petite pause sur le Dow Jones, 31 176 points. Le Nasdaq est en hausse, plus 0,5%. Ça continue sur les valeurs de technologie. Donc une pause relative à Wall Street. Le Nasdaq est à 13 531 points. L'attente de l'énorme plan de relance de 1900 milliards de dollars promis par Joe Biden soutient encore la tendance, surtout sur les valeurs de technologie. Donc on a Apple qui se distingue, plus 3,7%, 136,87 $. Facebook, plus 2%. Amazon, plus 1,3%. Microsoft, c'est plus modeste, hein, plus 0,3%. Google aussi, plus 0,2%. Il y a quelques baisses hein, quand même. Netflix repère 1% après son envolée d'hier sous les 580 $. Tesla redonne aussi un petit peu de terrain, moins 0,6%, 845 $. Le pétrole est plus stable, 53 $ le baril WTI. Exxon est en baisse, le géant pétrolier redonne 3%, moins 2,9% exactement, 48,11 $. Et puis l'euro pointe stable à 1,2160 face au dollar.
Le CAC 40 a terminé pour sa part en baisse ce soir, sans profiter des récents records de Wall Street.
Oui, c'est assez décevant, mais bon, pas vraiment surprenant, un marché toujours aussi calme. Moins 0,6%, moins 0,67%, 5590 points de retour sous les 5600 points sur le CAC 40. La Banque Centrale Européenne, comme prévu, n'a pas modifié sa politique monétaire, toujours très accommodante. La situation sanitaire continue d'inquiéter, alors que l'on parle de plus en plus d'un troisième confinement à venir. Et le secteur le plus sensible à ce risque de reconfinement recule nettement ce soir. Ce sont les valeurs foncières qui détiennent donc des mètres carrés, aussi bien du côté du commerce que des bureaux. Unibail, moins 8%, Carmila, moins 7%, Klépierre, moins 6,5%, ICAD perd 2,5%. Autre secteur touché qui rechute, c'est le tourisme qui retombe donc avec, dans cette même logique, Pierre et Vacances, moins 4%, Getlink, moins 3%, c'est Eurotunnel. Et puis la Compagnie des Alpes, moins 2,7%, 17,90 €, qui a vu son activité chuter de 81% sur le trimestre écoulé.
Oui, avec la confirmation de la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski et la probable saison blanche à venir. Exception du jour, à noter toutefois, le titre Renault qui s'est redressé ce soir dans un marché soutenu.
Un petit mieux, oui, plus 1,2%, 35,25 € Renault. Les analyses continuent de plancher sur le fameux plan de relance du groupe automobile appelé Renault Lution, qui avait été fraîchement accueilli en Bourse de Paris la semaine dernière. Le broker Jefferies est un petit peu plus optimiste concernant ce plan d'action qui est jugé sain et pas trop gourmand, qui passe par l'électrique évidemment. De quoi relever son objectif de cours de 30 à 37 € sur Renault. Renault qui termine ce soir en hausse d'1,2% à 35,25 €. Sur les autres places financières, ça baisse en Europe. Le DAX, moins 0,10% à Francfort. Madrid, moins 1%. Londres, moins 0,37%. Et donc le CAC 40 en baisse de 0,67%. 5590 points.
Merci beaucoup Didier. Mot de boursier.com et à demain. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Xavier Vasquez.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur mondial des centres technologiques d'IBM Systems. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est pour parler de la stratégie quantique du gouvernement. Alors là, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs sont en train de se dire, mais de quoi vont-ils parler ? Eh bien, d'une ambition française, puisqu'on veut tout simplement faire partie du trio de tête de l'ordinateur quantique. Ma première question va être toute simple. C'est quoi un ordinateur quantique ?
Et effectivement, c'est une question importante pour commencer. L'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui se base sur les principes de la mécanique quantique pour calculer. Alors, je vais vous expliquer ça concrètement. Si, par exemple, on prend le monde physique d'aujourd'hui et celui que l'on voit de tous les jours, les planètes, celui d'Einstein, en quelque sorte, on est capable de modéliser un certain nombre de phénomènes, comment les planètes tournent, notre environnement, tout le monde visible, on arrive plus ou moins à le modéliser. Ce qui est plus compliqué, mais qui a été entrepris au début du siècle, c'est la modélisation de l'infiniment petit, qui sont régis par des lois qu'on appelle les lois de la mécanique quantique. Alors l'infiniment petit, il faut prendre une échelle, c'est simple, c'est au niveau de l'atome, c'est tout ce qui se passe en dessous de l'atome. Mmh. Et dans ce monde un petit peu bizarre qui est l'infiniment petit, eh bien il y a des lois qu'on appelle les lois de la mécanique quantique, notamment la fameuse équation de Schrödinger, et par des principes qu'on appelle un peu barbares, hein, superposition, intrication, eh bien on arrive à construire des ordinateurs qui calculent différemment des ordinateurs classiques.
Mais alors pardonnez-moi, concrètement ça me sert à quoi, moi Emmanuel Duteil ?
Alors concrètement ça peut vous aider à organiser par exemple votre mariage. Je donne souvent cet exemple-là, mais lorsque vous devez organiser un mariage et que vous devez placer 10 convives autour de la table, eh bien il vous faut... il y a plus de 3 600 000 combinaisons possibles. Pourquoi ? Parce que vous faites une factorielle de 10, c'est-à-dire 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5, etc. Et lorsque ce chiffre est important, c'est-à-dire très très grand, par exemple 500 ou 1000 factoriels, eh bien même les ordinateurs les plus puissants du monde mettront des années à le calculer. Eh bien ce petit problème se retrouve dans plein d'algorithmes et plein d'applications, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le secteur de la finance, de la santé, la
logique. Donc là, pour qu'on comprenne bien, un ordinateur quantique permet de calculer plus vite des données plus importantes. Il arrive à résoudre des problèmes qu'un ordinateur normal serait incapable de résoudre ou mettrait des années à résoudre. C'est ça l'avancée.
C'est exactement ça. Alors, l'ordinateur quantique, on est encore à la recherche, même si, par exemple, IBM a une feuille de route qui était claire. Mais en travaillant sur les cas d'usage dès maintenant, eh bien, dans quelques années, on pourra bénéficier de l'avantage quantique et donc de résoudre des problèmes qui, aujourd'hui, sont infaisables avec les ordinateurs classiques.
Mais là encore, pardonnez-moi de le ramener à ma simple personne, en tout cas à celle de tous nos auditeurs en ce moment. Ça serait une révolution aussi importante que l'introduction de l'ordinateur personnel il y a de ça des dizaines d'années ?
Alors, concrètement, je pense que oui, hein, on en est tous convaincus. Je vais vous donner un exemple très simple au niveau de la santé, par exemple. Aujourd'hui, pour trouver un médicament, il faut quelques années, même si il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Hein. D'ailleurs, récemment, la communauté scientifique a utilisé une puissance de calcul assez phénoménale pour avoir des pistes sur le Covid. Mais un ordinateur quantique va pouvoir, par exemple, modéliser comment les molécules interagissent entre elles, comment elles sont structurées, comment elles sont réactives, comment on peut prédire sa réactivité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, eh bien, on va pouvoir synthétiser des molécules thérapeutiques et en fait, finalement, personnaliser de plus en plus la médecine. Et on pourrait même dire, je cite souvent cet exemple-là, mais il y aura autant de protocoles que de malades. Mmh. Donc, concrètement parlant, pourquoi ça ?
Donc, ça permet aussi une ultra-personnalisation à partir de données gigantesques. C'est ça, si on peut résumer ?
Oui, bien sûr, avec toutes les données qui sont à notre disposition, avec les différentes techniques et donc le quantique qui pourrait s'ajouter à ça, eh bien, ça permettrait de grandes évolutions. Le cas concret, c'est qu'aujourd'hui, avec un ordinateur standard ou même la plus grande puissance de calcul aujourd'hui disponible, on va être incapable de modéliser une molécule simple avec très peu d'atomes. Mmh. Et demain, avec le quantique, on imagine qu'on peut modéliser même des molécules très compliquées comme la pénicilline ou d'autres molécules.
La France veut devenir le premier État à se doter d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste. C'est ce qu'a promis ce matin Emmanuel Macron. IBM France va participer à ce projet. Pourquoi s'associer au projet français ?
Alors, tout d'abord, on a notre propre technologie. C'est-à-dire qu'on a développé cette technologie depuis des décennies. On a été reconnu dans le domaine. La première fois que l'idée d'ordinateur quantique a émergé, avec Richard Feynman, qui est le fameux prix Nobel de physique en 81, ça a été lors d'une conférence qui a été organisée par le MIT et IBM. Notre point, il est, il ne faut pas mettre les yeux dans le même panier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de surtout travailler, en tout cas en ce qui nous concerne et ce que l'on veut apporter, sur les cas d'usage et renforcer les compétences. Notre expérience là-dessus, elle est d'apporter à la France notre expertise et justement d'essayer de développer des cas d'usage, que ce soit dans le milieu économique, bien sûr, mais aussi au niveau de la recherche.
Ouais, on met plus de sous sur la table, nous, en France, pour y arriver. 2 milliards d'euros, si on arrondit sur les 5 prochaines années. Il va aussi y avoir de l'argent mis par le privé, etc., etc. C'est pour quand, d'après vous ?
Alors, dépendant des applications. Sur certaines applications, on va pouvoir voir des choses très concrètes d'ici 3 à 5 ans. Donc, c'est quand même demain. Mmh. On voit le quantique vraiment comme une source de progrès majeur pour la société et les entreprises.
Eh bien, merci beaucoup, Xavier Vasquez, le directeur mondial des centres technologiques d'IBM Systems, d'avoir éclairé notre lanterne sur ce qu'est cet ordinateur quantique. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
C'était passionnant. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Ils parleront mode masculine avec la PDG de Fursac. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Pfizer, le scandale de la 6e dose, titre Libération qui revient sur cette info dont on vous parlait dans le journal. Le labo américain va réduire ses livraisons de vaccins, prétextant la recommandation européenne de prélever 6 doses par flacon au lieu des 5 prévues initialement. Résultat, Pfizer se met tout le monde à dose, écrit Libé qui rappelle que cette décision va ralentir de facto nos campagnes vaccinales. L'Italie songerait d'ailleurs à porter plainte. monde. C'est le jackpot pour Pfizer, ajoute Libération. Ce tour de passe-passe va permettre au labo d'augmenter considérablement ses bénéfices. Et oui, vu que ces millions de flacons économisés pour le marché européen vont pouvoir désormais être vendus à d'autres pays, les labos pharmaceutiques ne sont pas des entreprises philanthropiques. Nous en avons aujourd'hui la preuve éclatante, conclut dans son édito Alexandra Schwarzbrod. La grande détresse des professionnels de la montagne, c'est l'un des titres que l'on peut lire en une du Figaro. Le journal revient sur la décision de maintenir fermées les remontées mécaniques en raison de la pandémie. Les stations de ski se dirigent tout chousse vers une saison blanche et ce serait un cataclysme économique. 80% de l'activité risque de partir en fumée, soit au moins 8 milliards d'euros. À lire donc demain dans le Figaro.